Vous écoutez France Culture.
Fort intérieur avec Jean-Marie Leclésio. Jean-Marie Leclésio, chercheur errant, un des écrivains les plus singuliers de notre époque, un exilé de l'intérieur qui donne sa voix à ceux que l'histoire délaisse ou détruit. Une quarantaine de livres publiés jusqu'à maintenant, le dernier, Cœur brûle et autres romances, chez Gallimard en l'an 2000. 7 nouvelles sur le déchirement de l'amour et de la solitude. Adolescentes ou femmes qui attendent de la vie un signe qu'elle n'est pas capable de leur donner. Phrase de vous, Jean-Marie Leclésio, extraite de Cœur brûle et autres romances, quand le monde était encore innocent. Vous y croyez vraiment à cette innocence antérieure?
Je parlais d'un autre monde, d'une autre vie dans la vie d'un personnage. Je crois qu'on a tous, chacun a dans sa vie une période où il a cru à l'innocence, il a cru à une sorte d'idéal. Et par la suite, la vie l'a déçu ou l'a amené à raisonner autrement.
Mais alors souvent, chez certains écrivains, cela aboutit au cynisme, à l'amertume. Or, il n'y a chez vous ni cynisme ni amertume. Et avec ce dernier texte, on retrouve l'élan juvénile de vos premières nouvelles.
Oui, j'ai eu la chance d'avoir une enfance heureuse. J'ai beaucoup aimé l'enfance. Ça a été un moment extraordinaire pour moi. En dépit de très violents maux de tête qui m'accablaient, j'étais très très heureux durant cette période-là. Et ensuite, le passage par l'adolescence a été très difficile, puisqu'il fallait renoncer à cette peau d'enfant et devenir quelqu'un d'autre, et comprendre les raisons, comprendre les compromissions et tout ça. Donc ça, c'était très difficile. Et je me suis attaché un peu à ces personnages qui ont une enfance qui est un paradis perdu, traversent une adolescence difficile et doivent faire naître un adulte improbable et de peu de stature.
Oui, mais qui n'y arrivent pas la plupart du temps.
Oui, parce que c'est très difficile. Le monde actuel, en particulier le monde moderne, occidental, ce qu'il est convenu d'appeler ainsi, c'est un monde qui refuse ce moment de violence et d'intensité du passage à l'âge adulte, du moment où on se transforme, on change de peau, change de nom, change de visage, change de corps. Tout ça est très très difficile. Et c'est d'autant plus difficile que le monde adulte voudrait voir dans les enfants de petits adultes, des adultes de petit format, chez les adolescents, la préfiguration, la figure de proue de ce qu'ils vont être plus tard, c'est-à-dire des gens convenables et qui vont réussir, qui vont être productifs dans la société. Et ensuite, quand ils sont adultes, ils n'ont pas le droit de regretter, ils n'ont pas le droit de revenir sur ces moments-là. Et je crois que ça, c'est vraiment le monde occidental qui fabrique cette image un peu dure et assez machiste et pas très réaliste de l'être humain.
C'est-à-dire que vos adolescents, qui sont surtout d'ailleurs des adolescentes dans son recueil, ne veulent pas accéder au monde adulte. Si on prend par exemple la première nouvelle, celle qui donne le titre à l'ensemble, « Cœur brûle », Père Vanche, en fin de compte, ne veut pas entrer dans le monde que symbolise sa mère, qui est celui du droit, de la justice et de l'ordre. Donc c'est sans issue pour elle, puisque le monde est dominé par les adultes. C'est pas simplement qu'on n'accepte pas son adolescence, c'est qu'on n'acceptera jamais qu'elle reste libre comme elle aurait voulu l'être.
Oui, il y a un moment assez mystérieux dans la vie où je crois que tout le monde a dû passer par là. Et en particulier, peut-être les adolescentes, les jeunes filles connaissent ce moment avec beaucoup d'intensité, où tout peut basculer dans le pire. On a la tentation du pire. On a la tentation de la dégradation, du refus, de l'abandon. Et c'est d'autant plus fort que la société n'a pas préparé les enfants à envisager le pire. Alors on leur a raconté des histoires. On les a tenus éloignés de tout ce qui est vérité biologique, physique, de tout ce qui est contact physique et charnel avec le monde. Donc il y a cette tentation de se laisser aller et de sombrer. Et Pervenche, le personnage de Cœur Brûle, est un personnage ainsi. C'est un personnage qui se laisse sombrer par à la fois appréhension de ce qui va se passer, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui va m'arriver, qui est la grande question qu'on peut se poser à cet âge-là, et qui en même temps se laisse sombrer parce qu'elle sait que ça va aller contre sa mère, que ça va aller contre Clémence, sa sœur, qui prépare une carrière de juge, qui est du côté du droit, du côté des gens qui comprennent, qui parlent. Et donc elle s'enfonce, elle, dans ce qu'on ne dit pas, dans ce qu'on vit et qu'on ne dit pas.
Est-ce qu'il n'y a pas une certaine complaisance chez elle ?
Non, je n'appellerais pas ça de la complaisance, c'est peut-être du fatalisme, peut-être le sentiment qu'elle ne pourra pas faire autrement. Parce que je crois qu'il y a un point noir dans chaque être humain, il y a un point de néant. Et lorsqu'elle sombre, eh bien, elle se laisse sombrer à ce point noir, elle se laisse entraîner par ce centre, je dirais, d'anti-morale, ou je ne sais pas, d'anti-vie qui est en elle, comme en chacun de nous.
Mais est-ce que pardonner, c'est sombrer ? Même l'homme qu'elle aime va la vendre, elle va se faire violer, et alors qu'elle avait une révolte à l'égard de la société, elle n'a pas de révolte à l'égard de celui qui l'a trahi.
Ce n'est pas pardonner, c'est considérer que ce garçon qu'elle aime et qui s'est si mal conduit avec elle a été juste un instrument, que c'est elle qui a décidé. Elle a décidé de sombrer, elle a décidé de se laisser entraîner dans une situation presque insurmontable, de devenir l'objet de quelqu'un. Et le garçon en question, lui, n'est rien. C'est juste le moment, l'occasion de cette trahison.
Alors c'est peut-être pour sauver cet amour qu'elle a cette attitude.
Je crois qu'elle a, comme beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, elle a un amour qui est total et qui n'est pas, qui ne s'appuie sur rien de précis. Elle est envahie par le sentiment amoureux. Et si elle sombre, c'est parce qu'elle l'a choisi. Elle a choisi de se laisser entraîner par la part négative. Mais le sentiment amoureux ne s'applique à rien de particulier, en tout cas à personne en particulier. Je disais trahi parce que j'ai l'impression qu'on pourrait relire l'évangile un peu de cette façon-là. On pourrait dire Jésus savait qu'il devait mourir, il savait que c'était Judas qui devait le trahir, tout ça c'est passé. Il s'est laissé entraîner par son point sombre.
Oui, à moins que le point sombre de Pervenche ne soit justement la société elle-même.
Oui, c'est vrai que le point sombre, ce sont les autres aussi. C'est vrai que les autres sont en vous. Mais pourquoi, au moment de l'adolescence, et je peux en parler parce que je l'ai expérimenté, pourquoi est-ce que l'on est tenté tout à coup par le néant ? Pourquoi c'est à ce moment-là que ça se manifeste ? Et pourquoi c'est aussi irraisonnable et souvent aussi incontrôlable ? C'est la question que je pose. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse.
Alors on retrouve exactement le même thème dans « Chercher l'aventure », enfin, pas le même thème que « Cœur brûle », mais celui de ce drame intime et profond que vit une adolescente qui est incapable de trouver la possibilité, dans la vie courante, d'épanouir sa révolte.
Oui, je voulais faire ce recueil parce que c'était « Chercher l'aventure », j'aurais voulu l'appeler « Chercher l'aventure » parce que dans mon esprit, c'était la nouvelle qui justifiait le recueil. Bon, je ne l'ai pas dit, mais voilà, maintenant c'est dit. Et c'était une nouvelle sans personnage, sans histoire, juste avec ce sentiment comme une vague qui monte à l'intérieur du corps de cette adolescente que j'appelle la jeune fille, parce qu'elle n'a pas de nom. Et cette vague porte des choses très anciennes, des impressions, des sentiments, des chimères anciennes qui lui viennent de qui ? Qui lui viennent de très loin. Et je voulais dire ce que c'était que être une jeune fille dans le monde moderne et être à la fois l'héritière d'un passé si ancien où les gens n'avaient pas de place, bouger, rien ne leur appartenait. Peut-être l'âge d'or en fait là aussi.
Donc encore une fois, le blocage viendrait de l'appartenance.
Je n'irai pas jusqu'à confirmer Proudhon, mais c'est vrai que l'appartenance est à la fois indispensable et en même temps, c'est tellement fugace et de peu de crédibilité. J'aime bien voir les animaux. Quand je vois des animaux, je pense toujours qu'ils n'appartiennent à aucun endroit. Voir passer des oiseaux sauvages dans le ciel. Ils ne pensent pas « ce coin-là, ce bout de monument, cette statue m'appartiennent ». Ils sont là, ils se posent, ils repartent. Et récemment, à Nice, il s'est produit un événement curieux. L'aéroport a été envahi par des escargots et les avions ne pouvaient plus décoller ni atterrir. C'est quand même extraordinaire. Les escargots avaient décidé que pour quelques heures, ça serait à eux, ça. Et ça a été à eux.
Reporter aux hommes, ce que vous dites aboutit au peuple nomade. D'ailleurs, c'est la première phrase de cette nouvelle. La nuit tombe et avec elle vient le souvenir des peuples nomades, les peuples du désert et les peuples de la mer. Ah, c'est tout le Clésio, là.
Oui, parce que je crois que c'est très fort en nous. Je ne pense pas que ce soit le Clésio. Je crois que c'est dans tout le monde. Le sentiment de la précarité et de ce qui, au fond, dépasse les frontières, les barrières, les murs qu'on a construits, les propriétés qu'on a édifiées, les certitudes qu'on a établies, les règles morales qu'on a données une fois pour toutes, les jugements, et les jugements en particulier par rapport aux crimes, par rapport aux actes. Tout ça est tellement fluctuant et de peu de durée. Et en même temps, chacun vit une vie immense et qui est faite du passé, qui est faite des pulsions du passé, des désirs. Donc il ne reste pas grand-chose de sûr là, dans tout ça.
Vous êtes sûr de ne pas fabriquer là, une sorte de monde idéal qui n'aurait pas existé, puisque les ethnologues qui étudient les peuples nomades savent que s'ils sont libres dans l'espace, ils ne le sont pas dans l'organisation sociale.
Non, c'est vrai que les nomades ont eu besoin de frontières, non pas de frontières, mais de sentiers, de chemins. Mais en même temps, ce qu'ils ont sous les yeux, c'est un paysage qui est mouvant constamment. Ils ne pratiquent pas véritablement de culture de durée. Lorsqu'ils pratiquent l'agriculture, c'est une agriculture qui se fait chaque année, qui est renouvelable. Mais ils savent très bien que l'endroit qu'ils ont trouver un petit peu irrigué l'année d'avant pour être complètement sec l'année d'après. Et ils ne sont pas attachés à ça. Dès l'instant qu'ils ne peuvent plus y vivre, ils changent, ils passent de l'autre côté de la montagne. Et ça ne pose aucun problème. Et même les peuples les plus enracinés dans un lieu, on les a vus être capables de changer de lieu très facilement. Je pense au Mexique, à un endroit où est né un volcan qui s'appelle le Paricutín. Les gens vivaient dans ce coin. Le volcan a poussé, ils ne pouvaient rien faire d'autre, ils sont partis, et ils ont reconstitué leur habitat de l'autre côté du volcan sans aucun problème. Ça s'est fait très facilement. Ils n'ont pas eu le sentiment d'un drame considérable qui s'est passé dans leur vie. Ils ont même, dans un certain sens, oublié qu'ils avaient habité là.
Donc si votre adolescente avait vécu au sein d'un peuple nomade, ou si elle avait pu avancer sur la terre librement, elle n'aurait pas eu cette déchirure.
Je ne sais pas s'il n'aurait pas eu. Il aurait sûrement eu d'autres déchirures, parce que je crois que le passage à l'adolescence est toujours très difficile partout. Mais ce que je voulais dire, ce qui pulsait en elle, ce qui l'oblige à sortir, à revêtir son armure et se lancer dans la rue, c'est un besoin, un désir mystérieux qui est au fond d'elle et qui lui fait haïr toute certitude, toute sécurité. Elle se lance à l'aventure, elle va devenir quelqu'un d'autre, elle va peut-être perdre sa vie, c'est vrai.
Vous vous reconnaissez en elle ?
Je me reconnais en ce sens que j'ai toujours détesté les certitudes. Rien qui ne m'a paru plus frustrant que l'enseignement qu'on m'a donné, qui était fondé sur des lois qui avaient l'air d'être artificiellement durables. Les lois philosophiques, l'intelligence qu'on pouvait avoir de l'homme, les explications qu'on pouvait apporter, les leçons de l'histoire, tout ça me semblait détestable. Et je crois que j'avais en moi, quand j'étais adolescent, très fort cette pulsion de faire tomber les murs, d'aller voir ailleurs, de me laisser entraîner par le point sombre.
L'observation des sociétés prouve qu'il est très difficile de vivre dans l'incertitude. Et quand il y a trop de doutes, trop d'incertitudes, trop de questionnements, les gens se réinventent des systèmes de pensée qui rassurent. Un système de pensée s'en va, celui des religions établies, un autre système, le dogmatisme politique, le remplace. Peut-être que seuls les artistes et les mystiques échappent à cela. Donc ce que vous dites, le dites-vous pour des individus ou pensez-vous vraiment qu'une société peut vivre en dehors d'un système rassurant de certitude?
Oui, il me semble que les sociétés sont faites d'individus et que les tendances qu'on trouve dans une société sont celles de l'ensemble des individus. Je ne suis pas d'accord avec vous sur l'idée d'une société qui nécessairement est fondée sur la certitude. En tout cas, moi, je suis attiré par les sociétés qui sont fondées sur l'incertitude. Je pense à l'islam, par exemple, qui est une culture fondée essentiellement sur l'incertitude. On ne sait pas. On ne sait pas si on va pouvoir rester. On ne sait pas si on va recevoir les fruits des prières, si ce qu'on a demandé sera accordé. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'infini partout qui vous entoure, qu'il y a une sorte d'inconnaissable, d'incommensurable que l'on côtoie. Il y a un passage dans Marguerite Yourcenar que j'aime beaucoup, dans lequel elle évoque la conversion d'un chef barbare. Ça se passe donc dans le Nord. Et un missionnaire arrive et il cherche à convaincre le chef barbare de devenir chrétien. Le chef barbare ne veut rien entendre. Ça, il ne voit pas du tout la raison qui le ferait changer de religion, de vénération. La discussion semble bloquée, plus personne ne parle. Tout à coup, dans la pièce où ils sont, qui est, j'imagine, une sorte de château fort, la fenêtre est ouverte, c'est la nuit, et un oiseau entre, traverse la pièce et ressort par une autre fenêtre. Et dans une sorte d'éclair d'intelligence, le missionnaire lui dit « Voilà, c'est comme ça qu'on vit. On vit un instant ébloui par la lumière qui est dans le château, on vient du néant, on retourne au néant. » Et le chef barbare est tellement ému de cette phrase que tout à coup il se convertit. Et je trouve que c'est vraiment le seul argument valable des religions, c'est de vous faire sentir le mystérieux, l'inconnu, le néant qui vous entoure. La jeune fille de 15 ans doit entrer dans la vie en quittant sa chambre. Elle le sait, elle les voit, elle les attend. Ils sont dans son ventre, ils sortent de son regard, ils sont ses créatures. Elle n'a pas de savoir, pas de mémoire. Son corps est dur comme la nuit, ses yeux, ses seins, ses épaules, sa chevelure en rivière noire. Elle se coule au dehors sur les paroles de Rimbaud. Elle va au-devant de ceux qui la regardent, elle va vers ceux qui l'appellent. Dans son ventre, il y a la faim très grande, la faim de vivre, de saisir, d'être prise, de naître, de faire naître. Elle écoute dans la nuit le grincement des guimbardes qui jouent la mejorana, la malagueña, qui répète son nom encore et encore. Elle est elle. Elle appartient au vieux peuple nomade, au peuple des déserts de la mer et du sable, au peuple des antres et des vallées, au peuple des forêts et des rivières. Elle se glisse dans la nuit, elle est libre, elle s'en va.
Vous dites la vie est un jeu d'osselet.
Oui, j'aime beaucoup l'idée d'Héraclite que le temps est un enfant qui joue aux osselets. J'aime beaucoup cette image d'un enfant qui jette, comme par mégarde, comme par surprise, des figures sur le sol, qui regarde et qui rit. Et il n'y a pas d'explication. Il me semble que la vie est ainsi. Il me semble que la vie n'est pas planifiée, qu'elle n'est pas facile à comprendre, qu'elle ne peut être qu'interprétée, et qu'en définitive, c'est l'enfant qui rit qui a raison. L'enfant qui rit tout seul, comme dit Héraclite. Il a raison, il est le roi.
Et que la volonté n'a pas de prise sur le destin.
Je ne pense pas qu'il y ait ce qu'on peut appeler le destin. Je crois que c'est une notion assez artificielle qu'on a inventée pour justement consoler ou pour donner des raisons. Je crois que ce qui ressort de tout cela, c'est le très grand hasard, la très grande indétermination des événements. Et que la seule prise qu'on puisse avoir, c'est de les regarder et de les dire, de les comprendre d'une certaine façon, et puis d'en rire ou d'en danser peut-être, mais certainement pas de vouloir modifier ce qui est immodifiable.
Mais peut-on vraiment rire et danser quand on est victime? Il y a beaucoup de victimes dont le cœur brûle, et notamment des jeunes femmes qui deviennent des prostituées parce que justement, peut-être que l'enfant qui a joué avec leur vie a mal jeté les osselets.
Oui, c'est certain. Mais je n'ai pas écrit cette phrase dans ce contexte-là. C'est dans Trois aventurières. Et je pensais en particulier à une femme qui est, en fait, c'est le portrait d'une de mes tantes. Et cette femme refuse de modifier quoi que ce soit à ce qui a été donné, non pas parce qu'elle est fataliste, mais parce qu'elle est fidèle à ce qui lui a été donné. Elle considère que ce qu'on lui a donné, ce qu'elle a reçu à sa naissance et qui n'est pas nécessairement juste, elle doit en tirer le meilleur parti, c'est-à-dire qu'elle doit l'accepter tel que c'est et aller jusqu'au bout. Et ça n'a absolument rien à voir, effectivement, avec la vie d'une victime. Quelqu'un qui est victime doit pouvoir se ressaisir et pouvoir remonter le courant, ne pas se laisser aller à son point sombre. Là, c'est autre chose que des osselets qui sont jetés. Ce sont les autres qui vous manipulent, qui se servent de vous. Je parle de ce qu'on reçoit à la naissance, c'est-à-dire l'éducation, la race, l'origine, les capacités mentales et physiques, la longévité. Tout ça est donné à la naissance, on ne va pas pouvoir les changer. Mais on peut effectivement en tirer le meilleur parti, on peut aller jusqu'au bout de ce qui est bien dans le dessin qui a été fait, ça c'est vrai.
Oui, elle trouve effectivement son équilibre dans l'acceptation, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, dans la nouvelle suivante de Kalima, qui, elle, est victime.
Oui, je ne suis pas un apologue du quiétisme. Je ne crois pas du tout qu'il faille accepter le destin, du moins ce qu'on appelle, entre guillemets, le destin, de façon à faire le moins possible de remous dans l'état du monde. Je crois au contraire qu'il faut faire des remous. Et simplement, je pense que les personnages que je décris sont des personnages qui ont à la base reçu une donne absolument inamovible. Ils doivent aller jusqu'au bout. Et même Kalima va jusqu'au bout. Et d'une certaine façon, je trouve que même dans la vie de Kalima, qui semble si négative, il y a une part très douce et une part très, très forte qui justifie son existence, même cette existence si précaire. Mais je ne suis pas du tout un idéaliste. Je ne crois pas que la société nous donne le modèle de destinée en quelque sorte acceptable et d'autres qui ne le sont pas. Je ne crois pas que la société puisse œuvrer au bien-être et à la justice absolue. Je crois que c'est chaque individu qui doit le faire de son côté. Et il faut savoir que Kalima existe, il faut savoir qu'elle a existé, il faut savoir ce qu'elle a vécu.
Kalima, cette capacité en elle de s'extraire ou de se mettre en quelque sorte dans les marges de son propre corps quand les hommes sont sur elle.
Oui, elle rêve à son passé, elle se souvient de ce qu'était la vie avant, elle peut espérer que la vie va changer. La donne est terrible pour quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui est venu d'un pays du tiers-monde et qui est lancé sur le trottoir des grandes cités. Ça, c'est terrible.
Elle a le trésor, quand même, des images d'Afrique qui lui permet de supporter.
Oui, c'est un trésor, c'est vrai. C'est un trésor fragile, c'est un trésor. Mais je ne dis pas que c'est une vie exemplaire, je dis que c'est une vie réelle. Et qu'à partir de ce fait divers, on peut peut-être approcher de la réalité sensible de l'humain.
Parliez de l'importance de chercher l'aventure et aussi l'importance de Trésor, qui est la dernière nouvelle de Cœur brûle, parce que c'est véritablement une nouvelle initiatique, on cherche quelque chose, et parce qu'il y a une profonde méditation sur le temps.
Oui, je voulais que ça soit comme la réponse à Cœur brûle, qui est une nouvelle un peu sombre et assez tragique. Je voulais qu'il y ait une nouvelle qui soit comme l'image inversée de Cœur brûle. Et donc Trésor, c'est cette c'est à la fois l'aventure de personnes qui ne se rencontrent pas, un jeune garçon qui rêve à sa mère qu'il n'a jamais vue, qu'il ne verra jamais, qui rêve qu'il va pouvoir un jour aller en Suisse retrouver cette femme dont il imagine qu'elle a été sa mère adoptive. Et tout ça est parfaitement inventé. Et ce jeune homme, donc, qui suit les traces de quelqu'un dont il porte le nom, qui n'est peut-être pas nécessairement son ancêtre, de Burckhardt, qui a été le premier à visiter Petra. Et toutes ces enquêtes, toutes ces recherches ont pour cadre un endroit qui était autrefois habité par des gens qui en ont été expulsés pour laisser la place aux touristes, qui est la vallée de Petra. Donc, pour moi, c'était l'inverse de Cœur Brûle. Ce ne sont pas des personnages qui se laissent entraîner vers le noir, vers le sombre, mais qui se laissent en quelque sorte aspirer comme par une colonne de lumière.
Et il a la chance de rencontrer cette jeune fille qui lui offre une pierre.
Oui, elle lui offre une pierre, elle est muette, il ne sait pas ce que veut dire, quel est le message, il ne sait pas ce que ça veut dire. Mais c'est peut-être simplement la mémoire, la pierre de mémoire. Un symbole qui va lui permettre de continuer à vivre la vie monotone et assez rigoureuse des hommes adultes.
J'ai vu aussi comme une sorte d'abolition du temps, dans la mesure où on est à la fois au XIXe siècle, on est dans le XXe, il y a l'intrusion de l'histoire contemporaine, dramatique et tragique, c'est-à-dire les bombardements sur l'Irak, mais on ne sait plus si on est vraiment dans ce temps linéaire ou si tout n'est pas en fin de compte un seul point.
J'aime bien l'idée que la littérature règle son compte au temps, parce que c'est la grande question, c'est la grande douleur de la littérature. D'abord parce qu'un livre, ça a un déroulement linéaire, ça a un début et une fin, ce qui est terriblement irritant. Ensuite parce que la littérature vieillit, c'est-à-dire que la littérature c'est un moment, le moment que nous vivons. Ceux qui vont nous suivre ne vivront peut-être pas nécessairement ce que nous écrivons, ne comprendront peut-être pas les mêmes choses, ne recevront pas les mêmes mots. Donc je crois que c'est le nerf de la littérature, le temps. Et en même temps, il faut tuer ce nerf pour arriver à écrire. Il faut en tout cas, non pas le tuer, mais lui donner une autre sensibilité. Il faut changer le cours, le rendre peut-être circulaire ou sphérique, voir toute la complexité de ce qu'on est en train d'écrire, tous les tenants et aboutissants.
C'est ce que vous avez cherché à atteindre dans ce dernier texte, arriver à concentrer le temps en un seul point.
Oui, parce que le site de Petra était pour moi le symbole même du temps. C'est un boyau très étroit par lequel tout à coup on a accès à un passé absolument magique. Les monuments construits au temps des Romains sont là, tout neufs. Le temps n'est pas passé. Et en même temps, on est dans un autre monde, parce que c'est vrai qu'il a fallu passer par ce goulet très étroit, quitter le monde imparfait de l'ère contemporaine, où les avions des puissances les plus performantes du siècle vont bombarder des gens pratiquement sans défense, où les nomades ont été cantonnés dans un village de ciment. En dehors de cet abri, tout est absurde, tout est presque irréel, tellement c'est contredit, tellement c'est sans définition et sans raison. Et là, à l'intérieur de Petra, tout d'un coup, on est dans une sorte d'éternité. Et je pensais que ceux qui entraient là vivaient ce retour vers la partie éternelle d'eux-mêmes.
Vous ne parlez pas de vous, Jean-Marie Le Clézio, dans Cœur brûle, ou bien alors de manière très indirecte. Bon, alors on tombe dans ce que tous les artistes font, bien sûr. De toutes les façons, dans toute votre œuvre, vous avez très très peu parlé de vous. Une fois, vous avez publié un journal, et puis quelquefois, bon, quelques intrusions dans vos expériences dans le monde amérindien. Mais néanmoins, il m'a semblé que la dernière phrase pouvait être vraiment dite par le jeu qui est celui de Jean-Marie Le Clézio. Quand vous écrivez « Aujourd'hui, j'ai quitté l'incertitude de l'enfance et je marche jusqu'à ma mort sur la même route comme doivent le faire les hommes. »
Quand j'ai commencé à écrire, ou plutôt quand j'ai commencé à publier, le choix s'est posé pour moi. Est-ce que je vais parler de moi ou est-ce que je vais parler, non pas des autres, mais de ce que je perçois des autres, de ce en quoi ils me gênent parfois, ou de ce que j'aime en eux, ou de ce que j'espère. Et j'ai terminé, un peu ironiquement, mon premier roman publié, qui était Le procès-verbal, par la formule « je », et j'avais mis entre parenthèses, notez que je n'ai pas utilisé ce mot trop souvent, et j'ai terminé la phrase, je crois que je pourrais continuer à propos d'Adam ou de quelques autres. Je cite approximativement la dernière phrase. Et donc, c'est vrai que j'ai eu des réticences à dire « je », à utiliser ce mot en le chargeant de confession. Pour moi, la confession, c'est un mode mineur, c'est pas un mode qui m'intéresse. Sauf la confession de Saint-Patrick, qui est un livre que j'aime beaucoup, parce qu'il raconte sa vie, mais c'est juste pour construire une sorte de tremplin qui vous mène vers ailleurs. Et bon, cette dernière phrase que vous citez, c'est vrai qu'elle m'appartient. Mais c'est vrai, je crois aussi, que la littérature est un chemin et qu'elle vous conduit vers la maturité, vers la prise de conscience de la maturité. Quand on est enfant, on écrit. J'ai écrit étant enfant, je ne savais pas ce que j'écrivais. Quand j'étais adolescent, j'ai écrit des poèmes absolument échevelés, très rimbaldien et en même temps plein d'exécration et de malédiction. C'était certainement pas je qui parlais, c'était quelqu'un d'autre. Et quand on est avancé sur ce chemin de la littérature, on a acquis non pas des certitudes, mais on a pris conscience de ses limites et on a pris conscience aussi de ce que ces mots qu'on a écrits peuvent avoir eu comme action auprès des autres, la manière dont ils vous ont permis de communiquer, ce qu'on a échangé, ce qu'on a reçu des autres aussi, l'échange qu'est cette littérature. Et tout ça est très modeste, ça reste une conclusion finalement très modeste. Et je veux bien qu'on écrive cette dernière phrase sur ma pierre tombale.
Pardonnez-moi, mais j'ai envie quand même un peu de la tordre de cette dernière phrase et d'y rajouter quelque chose. Quand vous dites « j'ai quitté l'incertitude de l'enfance », j'ai presque envie de dire, me mettant à la place de Le Clézio, « j'ai quitté l'incertitude de l'enfance, mais je bâtis encore mon œuvre sur cette incertitude. » Car en fin de compte, Cœur brûle est entièrement sous la lumière de l'incertitude de l'enfance.
Oui, incertitude. Tout à l'heure, on parlait du paradis de l'enfance. C'est vrai que c'est l'enfance qui n'est peut-être pas nécessairement paradisiaque pour tout le monde. Mais enfin, pour moi, ça a été un moment d'intense émotion où j'ai vécu en parfaite harmonie avec mes émotions. J'avais des émotions très violentes. J'ai été pris par des colères insurmontables. Je me souviens, j'habitais au dernier étage d'un immeuble et je jetais les meubles par la fenêtre à l'âge de 5 ou 6 ans, tellement c'était incontrôlable. Et pour moi, c'était ça le paradis, c'était vivre des émotions et être immédiatement, avoir la réaction immédiate. Et au fur et à mesure que le temps passe, on voit que ces réactions sont... On doit les contrôler, on doit les juguler. Donc, il reste, non pas l'incertitude de l'enfance pour moi, mais le caractère immédiat et violent de l'enfance, ce qui revient peut-être au même, mais qui a tout de même dans mon esprit, a un caractère positif. Et par la suite, on cherche sans cesse, enfin, j'ai cherché sans cesse à retrouver l'immédiateté. L'écriture, pour moi, c'est un des moyens de retrouver cette immédiateté. Donc je ne l'utilise pas comme un matériau qui serait un peu complaisant, d'utiliser un matériau pour construire ensuite le contraire de ce matériau. Mais j'ai utilisé au contraire l'écriture comme un moyen de me rapprocher de ce qui est, à mon avis, la seule véritable nature de l'être humain, qui est l'esprit. C'est au moment où on fait fonctionner son esprit qu'on est le plus près de la nature, qu'on est envahi par le sentiment de la nature. Et c'est pourquoi c'est si beau.
L'écriture comme un exercice spirituel ?
L'écriture comme un moyen d'être auprès de la nature. Je ne parle pas d'une nature rousseauiste. Je veux dire que si le but de l'esprit humain et de sa culture et de la société qui le forme est de lui faire comprendre ce qu'est la nature, pour moi, la nature est dans cette activité qui consiste à être intelligent, à comprendre. Donc, c'est quand on écrit et qu'on se rapproche des sensations qu'on a eues, des sensations d'immédiateté, qu'on est très près de la nature. Et non pas en étant violent en soi-même ou je ne sais pas, ou en étant naturiste. C'est une autre nature. La nature de l'être humain, c'est d'être ce corps nu qui est vêtu d'intelligence.
Il n'est pas facile d'établir des catégories dans votre œuvre, Jean-Marie Le Clézio, parce qu'en fin de compte, les catégories qui consisteraient à dire il y a les romans, il y a les sortes de visions intérieures, il y a les nouvelles, sont fausses, parce que c'est juste une forme extérieure et que dans le fond, ce sont les mêmes thèmes et les mêmes fils rouges qui courent. Néanmoins, si nous adoptions comme ça artificiellement, juste pour quelques minutes, une certaine volonté de classification, on se rend compte donc que ce serait, avec Cœur brûle, votre quatrième recueil de nouvelles, après Mondo et autres histoires, après La Ronde et autres faits divers, et après Printemps et autres saisons. Et je pense que vous êtes extrêmement à l'aise dans ces petits textes courts qui vous permettent vraiment d'aller rapidement à l'essentiel.
J'ai beaucoup aimé les nouvelles, j'ai toujours beaucoup aimé ça. Pas tellement à cause de la brièveté, parce que certaines nouvelles sont très très longues, mais parce qu'il y a une réduction, il y a une économie des moyens, réduction des personnages, il y a peu de personnages, en général une certaine unité dans l'action, et en tout cas une unité dans le ton. Donc tout ça fait que c'est un genre qui me convient particulièrement. J'aime beaucoup lire les nouvelles, en particulier les nouvelles de Rulfo, par exemple, dans le Yano en flamme. Je trouve ces nouvelles absolument magnifiques. Elles sont d'autant plus belles qu'elles s'organisent pour former une œuvre qui n'est pas un roman, parce qu'on ne peut pas suivre une histoire linéaire. Il n'y a pas de déroulement, il n'y a pas d'apex, on ne va vers rien, on n'a pas de solution à la fin. Mais en même temps, elles se construisent toutes comme des éléments d'une architecture. Ce qui fait qu'à la fin, ce qui semblait n'avoir aucune cohérence se retrouve un édifice parfait, un édifice qui tient. J'ai toujours cru que la littérature avait un rapport avec la musique, et que ce rapport avec la musique, c'était celui-là. C'était de faire tenir ensemble des matériaux, de bâtir des structures, de, au fond, lancer des théories, non pas des théories au sens intellectuel du mot, mais des théories de nombre, c'est-à-dire des enchaînements, des suites, des structures. Et il me semble que les nouvelles se prêtent particulièrement à ça. Elles se prêtent d'autant mieux qu'on peut les intervertir, on peut les lire dans un autre ordre que celui qui est proposé, et elles restent. Alors j'ai voulu utiliser le mot romance parce que ça a un sens musical, et qu'en même temps ça désigne un type d'écrit dans lequel le fantastique intervient. Ce n'est pas uniquement le réalisme. Bien que toutes ces nouvelles soient fondées sur des faits divers, je considère qu'elles sont toutes des nouvelles fantastiques.
Vous connaissez justement la phrase de Mozart, « J'assemble les notes qui s'aiment ». Est-ce qu'il n'y a pas chez vous aussi, dans ces recueils de nouvelles, un jeu d'assemblage qui permet justement des harmonies en passant d'un texte à un autre ?
Oui, j'aime bien cette phrase de Mozart. J'aime bien aussi lorsque Mozart fait sa propre critique en disant qu'il manque de modestie, qu'il manque d'esprit de pauvreté. Parce que c'est vrai que ça devrait être le guide de l'écrivain, comme ça a pu être celui du musicien, de se méfier des effets, de redouter les effets, et d'aller au plus simple et au plus fort, et d'oublier le reste. Donc les nouvelles conviennent bien à cette pratique. On va au plus simple, et on va au plus pauvre et au plus démuni, et peut-être ainsi on va aux astres.
Oui, mais en ce qui concerne la composition générale du recueil, est-ce que vous essayez de jouer, justement, comme quelqu'un qui assemblerait des notes, de jouer sur une couleur plus forte, une couleur moins forte, du noir et ensuite du blanc?
Non, là, l'assemblage s'est fait un petit peu tout seul. C'est-à-dire que je voulais que Trésor soit à la fin, que Cœur brûle soit au début. Et j'aurais souhaité que Chercher l'aventure soit au milieu, mais ça s'est fait un petit peu autrement. Bon, ça, non, je n'ai pas conçu le recueil comme quelque chose d'inamovible. D'ailleurs, je crois que c'est l'avantage des recueils de nouvelles que de pouvoir être feuilleté, lu à l'envers. Beaucoup de romans aussi, d'ailleurs, gagnent à être lus à l'envers. Donc, non, là, je crois que je parle d'un autre type d'assemblage. Je veux dire, à l'intérieur du texte lui-même, à l'intérieur de chaque texte, je crois que ce qui compte, c'est l'ossature et ce qui s'est révélé au fur et à mesure que ça s'écrivait. Ce n'est pas nécessairement un plan, mais c'est peut-être effectivement les notes qui s'aiment, c'est-à-dire les mots qui s'aiment ou les assemblages d'images qui ne pouvaient pas avoir lieu autrement.
Ce qui s'est révélé, c'est-à-dire que vous êtes surpris vous-même parfois?
Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que c'est vraiment une aventure d'écrire. On commence, on ne sait pas si ça va se finir d'abord. J'ai commencé des quantités de textes que je n'ai pas terminés. On ne sait pas vers quoi on va. C'est le fameux jeu d'osselets. Un enfant a jeté ses osselets, mais nous, on n'a pas vu ce qu'il a fait. Donc il faut qu'on retrouve. Il faut qu'on retrouve son geste. comment je vois demain. J'aimerais dire comme un jardin. J'aimerais que demain soit un jardin. J'aimerais que ce qu'il y a d'épouvantable dans le monde d'aujourd'hui, qui est composé d'aberrations contre la nature, de crimes sociaux et d'oubli tactique du tiers-monde, soit aboli et que demain soit vraiment comme un jardin, c'est-à-dire que le soleil brille sur les plantes, qu'on retrouve un rythme naturel, que justement qu'il n'y ait plus de mystère, que ce soit à nouveau libre, comme ça a pu l'être à certains moments. Je pense à la Renaissance, par exemple. Qu'on oublie les antagonismes. Voilà, c'est ça que j'aimerais.
Ainsi se termine Fort Intérieur avec comme invité Jean-Marie Leclésio, une émission d'Olivier Germain Thomas préparée avec la collaboration de Sandrine Chaperon, à la technique Jean-Claude Gauthier, chargée de réalisation Céline Terce. L'ouvrage de Jean-Marie Leclésio dont nous avons parlé est Cœur brûle et autres romances, publié aux éditions Gallimard en l'an 2000.